Avant de lire, j'ai des employés ce matin. Parce que je me suis dit, ce serait plus facile de faire le message à plusieurs que tout seul. Non, je plaisante. Mais si ceux, celles, qui doivent venir sculpter peuvent s'avancer, on peut les encourager. Alors, on a vu des photos là que Henri a montrées. On élira la plus belle sculpture et Andrew vous offre un voyage dans un de ces lieux. Ah non, c'est pas ça. Peut-être mets-toi de l'autre côté aussi, comme ça tu peux suivre en même temps. Si on peut tirer la table, hein, bouger tout. Mais par contre, Ramona, il faut qu'elle soit à côté de. Voilà. Elles vont travailler et écouter en même temps. Et à la fin du message. Bernard, tu me les distrais pas, s'il te plaît. Vous pouvez y aller. Vous savez ce que vous devez faire. Faut que ce soit visible, hein. Faut. Ah ben il y en a plein derrière si vous avez besoin. Juste derrière Bernard. Ok. Le titre du message ce matin, c'est Je le forme. Ah, il y a normalement il y a un PowerPoint. Tu le formes, nous le formons. Vous savez que je suis enseignant, alors je fais de la conjugaison. Ou alors. Idolâtrie ou foi dans le seul vrai Dieu. On va parler du sujet de l'idolâtrie. On n'en parle pas souvent et j'aimerais juste que chacun d'entre nous on puisse se laisser toucher, interpeller dans notre cœur par rapport à cette thématique-là. C'est quoi l'idolâtrie? On peut changer là. C'est un culte rendu à l'image d'un dieu. D'accord? C'est quand on vénère, on adore l'image d'un dieu comme si elle était le vrai dieu en personne. Mais en fait, c'est pas lui. J'aimerais bien dire à certains ce matin, c'est bon, vu la thématique, le sujet, tu es peinard ce matin, ça te concerne pas vraiment. Malheureusement, je crois que c'est un sujet qui nous concerne tous et auquel nous devrions tous prêter attention. Ça met un petit. C'est le teaser. On va lire dans Exode 32, versets 1 à 6. Le peuple. Voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: Ôtez les anneaux d'or, les boucles d'oreilles, qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire et ils se levèrent pour se divertir. Mais en fait, le mot divertir n'est pas très joli. C'est plutôt pour faire tout et n'importe quoi. Ce texte peut nous surprendre Et pourtant, on va voir que pas tant que ça. Remettons-nous un petit peu dans l'histoire. On a le peuple hébreu qui était parti en Égypte grâce à ce fameux Joseph qui travaillait pour le pharaon de l'époque. Et comme ça, il va sauver tout son peuple de la famine. Le peuple était bien en Égypte, il se multiplie. Et quand le peuple sort d'Égypte, on estime à plus d'un million de personnes. D'accord? La sortie d'Égypte. On ne parle pas d'une trentaine de personnes. Hein. Un million de personnes, plus les animaux, plus tout ça. Malheureusement, le dirigeant de l'Égypte change et le peuple est soumis progressivement à une pression croissante et va finir par devenir esclave en Égypte. Exode 3, 7, on peut lire. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. D'accord? Voilà ce qui se passait à ce moment-là. Dieu entreprend alors par la main de Moïse de faire sortir son peuple grâce à de nombreux miracles, les fameuses plaies d'Égypte, qui se ponctuent, cette série de miracles, par l'ouverture d'une mer. Waouh, incroyable. En deux parties. Et derrière, non seulement la mer s'ouvre, mais elle se referme au bon moment pour engloutir toute l'armée des Égyptiens. À la suite de ça, dans le désert, Dieu continue de se manifester par des miracles. Il va changer des eaux amères en eaux douces pour que le peuple puisse boire. Il va faire jaillir de l'eau d'un rocher. Il va faire apparaître de quoi manger du pain, la manne. Il va leur donner de la viande au travers d'écailles. Israël se fait même attaquer par les Amalécites et Dieu leur donne encore une fois la victoire. Et alors, 3 mois après cette sortie d'Égypte, on ne parle pas de 30 ans, hein, 3 mois après, ils se retrouvent au pied du mont Sinaï. Et Dieu dit à Moïse, monte à la montagne et je vais te donner les tables de la loi. Moïse monte à la rencontre de Dieu, accompagné de Josué. Le peuple, lui, en attendant, il voit les jours passer. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Mais il n'est pas capable d'attendre 40 jours. Moïse est resté 40 jours à la montagne. Alors on pourrait facilement se dire, mais après tout ce qu'ils ont vécu, je ne sais pas si en 3 mois vous avez vécu cette accumulation de miracles, mais moi ça ne m'est jamais arrivé. Bien sûr que j'ai vécu des miracles, mais c'est plutôt sur les années. Toutes les provisions que Dieu a données, la manne, l'écaille, l'eau, comment sont-ils tombés là-dedans, dans l'idolâtrie? Pourquoi se sont-ils tournés vers d'autres dieux que le vrai Dieu? Premier point ce matin. Ça va, vous êtes toujours là? Je vois que ça travaille bien là-bas. L'homme et la femme, espèce d'anthropomorphe. Tu peux dire ça à ton voisin. Non, 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 non. Blaise Pascal, pour ceux qui connaissent ce philosophe, a écrit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. » Je crois, comme Pascal, que tout être humain a besoin d'un Dieu dans sa vie. Pour certains, il est clairement identifié par une religion. Pour d'autres, il s'appellera science, ou il s'appellera argent, ou il s'appellera pouvoir, ou il s'appellera raison, etc. Et parfois même, certaines personnes vont s'autoproclamer Dieu. Et vous savez que de nos jours, ça existe encore. C'était très très fort, 1er, 2e siècle, et encore aujourd'hui, on entend des personnes s'autoproclamer Dieu. Et parfois, ils le font même sans s'en rendre compte. Vous savez, c'est ceux qui disent que Dieu n'existe pas ou que toutes les religions dans le monde se valent. On va regarder une petite histoire. Je travaille avec les enfants, alors... Oui, la vidéo, s'il te plaît. Je vais peut-être de l'autre côté pour ne pas gêner. Donc cette histoire est utilisée souvent pour raconter que les religions sont toutes en partie aveugles. Vous savez, elles décrivent juste chacune une partie de Dieu. Mais vous savez quel est le problème principal dans cette histoire ? Il n'y a pas de piège. Hein ? C'est quoi le problème principal ? Il y a un problème vraiment important. C'est le... Je n'entends pas. Oui, mais il y a plus que ça. Oui, il y a un homme en particulier qui est le problème. C'est le prince. Le problème de l'histoire, c'est le prince. Parce que le prince, lui, c'est lui qui vient et qui dit « Vous, vous êtes aveugle. Moi, je vois. Donc moi, j'ai raison. » Et vous, vous n'avez absolument rien compris. Donc déjà, lui, il n'est pas aveugle comme les autres. Lui, il voit Dieu directement. Donc il sait quelle partie touche les autres. D'accord ? Et pire que ça, s'il arrive à voir l'éléphant en entier, qui est le symbole de Dieu, il est où ? Eh oui. Lui, il se place... au-dessus de Dieu. D'accord ? C'est juste pour nous faire réaliser parfois les raisonnements. D'accord ? On nous focalise sur certaines choses, mais en fait, en dézoomant un petit peu, on peut dire aux gens, oh, oh, calme-toi, c'est toi Dieu ? Parce que toi, tu as tout compris, et moi, je suis l'aveugle, c'est ça ? De suite, ça plombe l'ambiance. Et souvent, les personnes qui disent que Dieu n'existe pas se prennent elles-mêmes, en fait, pour Dieu. Parce qu'elles, elles se placent en dehors de notre cécité. Revenons à notre texte et notre sujet du jour, parce que ça a un lien quand même. Pourquoi les Israélites ont ce besoin de fabriquer cette statue ? Et surtout, avons-nous ce même besoin ? On y a en partie répondu en disant que oui. Dans ce chapitre 32, il est dit par deux fois qu'Aaron a façonné, comme ils sont en train de façonner. C'est magnifique ce que je vois là-bas. Vous auriez pu en faire un à deux, hein, mais... Aaron a façonné de ses mains Dieu. Le veau, verset 4, verset 35. Laissez-moi nous dire ce matin que nous avons tous cette tendance à façonner Dieu dans notre pensée. Nous nous représentons tous Dieu. Dieu est comme ceci. Il est forcément bon, il est gentil, il aime, etc. C'est pas forcément faux, hein. Je dis que nous nous représentons. Ou alors, ah non, il est surtout pas comme ça. Et ça, on peut se surprendre les uns les autres à parler comme ça. C'est quelque chose de naturel, quelque chose d'inévitable. L'être humain représente toujours dans sa pensée ce qu'il ne peut pas voir avec ses yeux. L'art, est là pour nous le témoigner. D'accord? Si vous aimez aller dans des galeries, je vous y encourage. Vous allez voir que depuis des millénaires, l'art va tenter de représenter ce qu'on ne peut percevoir juste avec ses yeux. Ce matin, si je vous dis le mot fruit, à quoi vous avez pensé? Orange, fraise. Allez, n'hésitez pas, tout le monde a pensé à quelque chose. Pardon? Raisin, voilà, etc. On va tous se faire une représentation. Si je vous dis le mot joie, joie, et là on va penser, certains vont penser à un sourire, d'autres vont penser à une couleur, d'autres vont penser à une situation qu'ils ont vécue récemment, etc. On va avoir une représentation dans sa tête. Et nous nous représentons les choses souvent en fonction de notre vécu, de ce que nous connaissons ou de ce que nous ne connaissons pas. Et c'est la même chose pour Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Petite définition de anthropomorphisme. Tendance à concevoir la divinité à l'image de l'être humain. C'est la tendance que l'on a à concevoir Dieu selon notre conception, selon nous. Nous avons tous des représentations de Dieu basées sur notre connaissance ou notre non-connaissance, sur notre vécu, nos expériences, sur nos croyances, si l'on croit plus telle chose ou telle chose, sur nos sentiments ou nos perceptions. Inévitablement, nous modelons tous Dieu selon notre pensée. La question est, est-ce une bonne chose? Est-ce que ce Dieu auquel je pense, auquel je crois, est le vrai Dieu? Bonne question à se poser. Est-ce que ce Dieu auquel je crois est un Dieu que j'ai façonné moi-même, comme à Aaron? Alors pas avec mes mains, mais avec ma pensée. Ou est-ce le seul vrai Dieu devant lequel je me prosterne? Seigneur, parle-nous. Point 2, inévitablement. Dieu est autre. C'est un point, je pense, de la théologie fondamentale. Dieu, si on devrait le définir premièrement, il est autre. On peut lire quelques versets. Psaume 145, 3. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, sa grandeur est insondable. Ça veut dire... Jérémie 10, 6. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Ça veut dire je regarde et je ne peux pas te comparer, Seigneur. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Ecclésiaste 3, 11. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. D'accord? On continue. Job 36, 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. 1 Roi 8, 27. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Psaume 94 ou 95, suivant les versions. Oui, le grand Dieu, C'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main, il tient dans sa main les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Mais c'est qui Dieu? Vous comprenez que nos perceptions, là, elles en prennent un coup. On continue un petit peu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et un dernier, Éphésiens 3, 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, et là il y a deux petits mots qu'on lit souvent très très vite, il peut faire quoi? Infiniment au-delà. Ça veut dire quoi? C'est pas juste l'infini, c'est l'infini et au-delà. Vous savez, ça me fait penser à Buzz l'éclair, pour ceux qui connaissent. De tout ce que nous demandons ou pensons. On comprend mieux ce point, d'accord? Dieu, il est autre. Il est autre. Il est au-delà de ma pensée, il est au-delà de ma conception, il est au-delà de ma description. Il est même au-delà des mots que je pourrais utiliser pour tenter de le décrire. Alors, que faire pour ne pas laisser se développer en nous une mauvaise conception de Dieu? Peut-être un veau. Que faire? Eh bien, c'est très simple, en fait. C'est souvent ça avec Dieu. La solution est simple. Lire et prier. Lire la Bible et prier. Dieu se révèle dans la Bible, il se révèle dans sa parole. Plus nous allons lire la Bible, plus nous découvrirons que Dieu est tel qu'il est. Et nos mauvaises représentations vont laisser place au vrai Dieu dans nos pensées. Nos pensées vont changer. Dieu ne peut être défini, selon la Bible, que par Dieu lui-même. Ça a été cité ce matin, on va le relire. Dieu ne peut être défini que par Dieu lui-même. Matthieu 11, 27, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît, non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 1 Corinthiens 2, 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Les amis, nous avons donc crucialement besoin du Fils, du Père, du Saint-Esprit pour pouvoir concevoir une bonne image de Dieu. Nous avons besoin de Jésus pour connaître Dieu. Et nous avons besoin, du coup, de lire et méditer sa parole jour après jour. Car Jésus est cette parole faite chair. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous révèle les choses de Dieu. Au travers de la prière, au travers de l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Pourquoi est-ce si important de comprendre que Dieu est autre, bien au-delà de ce que je connais ou je perçois? Parce que si je ne comprends pas cela, eh bien, je vais limiter Dieu à l'intérieur de lui, de ma pensée. Je vais le limiter à ce que moi, je peux percevoir ou définir de lui. Rappelons-nous le dernier verset, si on doit en retenir un, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. Laissons Dieu être Dieu et nous être tout petits. Si je ne comprends pas que Dieu est autre et que seule la Bible et le Saint-Esprit peuvent révéler Dieu, eh bien je vais entretenir une forme d'idolâtrie où je vais adorer une image humaine, une image que moi, je me suis construit. Un taureau façonné par ma pensée. Et souvent, nous n'y prenons pas garde. Nous n'y prenons pas garde. D'accord ? Vous nous entendez souvent insister. Ouvre ta Bible et lis. Lis l'Écriture. Parce que c'est elle qui va te révéler le vrai Dieu. Prie. On a lancé un module sur la prière cette année. Prie, écoute ce que le Saint-Esprit veut te dire en utilisant souvent la Bible. Parce que cette manière de vivre parfois notre christianisme, loin du texte biblique, loin de la formulation dont Dieu se présente. Une petite parenthèse, si on a 5 minutes. Est-ce qu'on se rend compte de l'humilité de Dieu ? Moi, ça me touche profondément quand je réfléchis à ce thème. Dieu, il est tout ce qu'on a lu là, infiniment au-delà. Et pourtant, il accepte qu'on puisse le décrire avec des mots humains. Moi, c'est le genre de choses qui me font pleurer devant Dieu. Je dis « Waouh, Seigneur !» Waouh ! Est-ce que on perçoit un peu plus ce matin cette nécessité de plonger nos regards dans l'Écriture et de prier. Sinon, les amis, nous allons tous, et moi le premier, nous allons tous ôter nos boucles d'oreilles et faire un veau d'or dans nos vies. Et nous allons dire, non, Dieu, il est comme ça. Dieu, il est comme si. Ou il n'est pas comme ça ou comme si. Alors que nous ne parlons pas du Dieu de la Bible, du seul vrai Dieu. Et ça, Dieu ne le veut pas pour nous. D'accord ? Ça, Dieu ne le veut pas. Exode 20, verset 1 à 6, c'est le décalogue, les 10 commandements. Alors Dieu prononça ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. » Ce n'est pas le veau d'or qui t'a libéré. Ce n'est pas le veau d'or qui t'a arraché au royaume des ténèbres et qui t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est le vrai Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est bon, vous l'avez pris là, le jaloux? Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. Parce que ça, c'est péché. L'iniquité, c'est un mot pour parler du péché. Et c'est un péché profond en nous. Des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération et de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. L'idolâtrie était sévèrement punie dans l'Ancien Testament, très sévèrement. On arrive au point 3, je le forme, tu le formes, nous le formons, ou il, lui avec un grand I, me forme, formé par Dieu. Alors que le peuple attendait en bas de la montagne, Moïse, lui, est monté à la rencontre de Dieu avec Josué. Il a recherché cette connaissance réelle. Il a cherché cette proximité qu'il a façonnée, lui, qu'il a transformée. Vous savez, quand Moïse remonte à la deuxième fois, vous savez qu'est-ce qu'il dit au peuple? Je parle aux vieux chrétiens, là, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'il dit au peuple? Il dit, venez avec moi. Et qu'est-ce que le peuple répond? Ouais, on y va? Ah non! C'est toi qui y vas! Nous, on reste là. Est-ce qu'on n'est pas comme ça? Est-ce qu'on n'est pas comme ça dans notre cœur? Est-ce qu'on est comme Moïse et Josué? Ou est-ce qu'on est comme le reste du peuple? Même à Aaron, pour ceux qui connaissent les histoires de la Bible, Aaron, vous comprenez? Mais Moïse, lui, il s'est laissé transformer. Et en Nombre 12, au verset 3, il est dit que Moïse était un homme très humble. Plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Au lieu de fabriquer un taureau, Moïse, il est devenu un mouton. Humble. Dieu a fait de Moïse quelqu'un qui se soumet à Dieu. Un agneau de son troupeau que Dieu conduit. Josué avait suivi Moïse dans cette recherche de Dieu. Il était monté avec lui à la montagne. En Exode 33, au chapitre d'après, on voit au verset 11 qu'il est dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Noun, lui, ne sortait pas du milieu de la tente. » Vous le sentez, ce cœur? Moi, je reste avec Dieu. Moi, je veux le voir, lui. Josué 24, 15. Du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh bien, il va dire, « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens. » Donc, en gros, il est en train de dire l'idolâtrie. Vous voulez choisir l'idolâtrie, allez-y. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je vais aller passer du temps avec Dieu. Moi, je vais me plonger dans l'Écriture. Moi, je vais passer du temps dans la prière parce que je veux m'éloigner de ma propre conception de Dieu. Moi, je veux rencontrer le Dieu de la Bible tel qu'il est. Dieu a permis à Josué de développer la fidélité, la soumission à Dieu avant toute autre chose. Et alors que tout le peuple, rappelons-nous, était tombé dans l'idolâtrie, Dieu avait préservé Moïse et Josué en les gardant auprès de lui, en se révélant à eux. Et de même, nous sommes appelés à le connaître tel qu'il est, vraiment. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à être façonnés par lui. Romains 8, verset 29. Par lui, à l'image de Jésus. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus, cet agneau pur et sans tache qui faisait la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus, l'agneau, pas le taureau, l'agneau. Comment ressembler à Jésus? En devenant ses imitateurs. Comment imiter Jésus? En connaissant qui il est, ce qu'il a fait et comment il s'est comporté, à la fois avec Dieu ou avec les hommes et les femmes qu'il a côtoyés. Plus nous connaîtrons Jésus qui est décrit dans la Bible, plus nous réaliserons que c'est impossible de lui ressembler pleinement. C'est pour voir si je vous tiens toujours avec moi. Plus nous connaîtrons le Jésus décrit dans la Bible, plus nous réaliserons que c'est impossible de lui ressembler pleinement. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Plus cette impossibilité va grandir dans notre cœur, plus nous allons prier et supplier le Saint-Esprit de nous y aider. Amen. Plus nous allons lire, plus nous allons prier. Plus nous allons prier, plus nous allons lire. C'est simplement un cercle vertueux. D'accord? La présence du Saint-Esprit dans nos vies va alors nous transformer étape par étape. Et la Bible nous dit de gloire en gloire. On peut avoir la dernière slide? Ah, non, en arrière. Non, en arrière. Oui, non, c'était celle-là. 2 Corinthiens 3, pardon, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, dans la parole ou en prière, nous sommes transformés en la même image. Amen. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Conclusion. Est-ce que vous voulez nous montrer ce beau taureau? Venez le montrer. Bon, désolé pour ceux qui écouteront, vous n'aurez pas... Voilà, il faut venir. Allez, allez, lève-toi, Tiff. On peut les applaudir. Ah, il y a que David qui a écouté le message. Parce que lui, il dit « Ouh !» Waouh ! Allez-y, circulez, montrez-le. Il est... Non, il est magnifique. Ils ont fait même les muscles, là. Waouh ! De quoi ? Le taureau, on peut écouter en même temps. Le taureau est l'image du Dieu que je façonne avec mes propres conceptions. Et du coup, la Bible même me dit, c'est le Dieu auquel je ressemble. Est-ce que vous le saviez, ça? Le taureau, non seulement c'est l'image du Dieu que moi je façonne, mais c'est aussi l'image du Dieu auquel je ressemble. Je peux paraître fort, obstiné, voire dangereux. Je reste en quelque sorte puissant par moi-même et sauvage quelque part, indompté, rebelle, parce que c'est moi qui façonne Dieu. Vous vous rappelez, ce prince, il est au-dessus de Dieu. Donc lui, il voit bien. Ou alors, il y a une deuxième image. On peut avoir la suite. C'est super parce qu'en plus, ça montre le troupeau. Ils en ont fait deux. On peut les applaudir aussi. Waouh! Oh! On a de vrais artistes. Allez-y, passez dans les rangs et montrez-le. Que tout le monde en profite. On les mettra à sécher et on les mettra quelque part pour se rappeler le message. L'agneau est l'image façonnée à l'inverse du fait que c'est moi qui façonne. Cette fois-ci, c'est l'image qui est façonnée par Dieu, à l'image de Jésus, qui est l'agneau de Dieu. C'est un terme qui est employé plus de 31 fois dans le Nouveau Testament. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau ne semble pas fort. Et vous savez quoi? Il aime rester dans le troupeau. Il est docile, il est doux et il suit son berger. Il est façonné pour se soumettre à la voix de Dieu, lui obéir. Il est façonné pour lui obéir. Vous pouvez réécouter le message de Damien. L'agneau est façonné par Dieu pour lui obéir. On va prendre un temps de prière. Je voudrais compris pour des choses particulières, mais j'allais dire pour tout ce que Dieu vous met à cœur ce matin. Sentons-nous concernés par cela et venons vers notre Seigneur. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie qui existent. Et Père, je te demande de faire descendre le Saint-Esprit d'une manière particulière maintenant. Viens toucher nos vies, Seigneur. Viens nous libérer. On n'en parle pas souvent, mais il y a l'idolâtrie des puissances spirituelles. Peut-être certains parmi nous sont allés voir des guérisseurs, ont touché aux cartes. Ou alors, vous savez, les conjureurs de feu. En fait, tout ce qui est puissance spirituelle, mais qui n'appartient pas à Dieu. Ce matin, je voudrais qu'on prenne le temps de prier par rapport à ça. Si on n'a jamais prié pour toi et quand tu puisses demander pardon et que Dieu te libère de cela, parce que ce n'est pas sans conséquence. Déjà sur ta conception de Dieu, mais plus que ça. Et peut-être que si certains ont des choses récurrentes dans leur vie dont ils n'arrivent pas à se débarrasser, juste mettez-vous devant le Seigneur et demandez-lui pourquoi. Et s'il vous dit que c'est lié à un objet, vous avancerez tout à l'heure et on priera. On peut aussi idolâtrer, s'idolâtrer soi-même, en vivant par ses propres forces, en mettant Dieu juste comme une roue de secours, quand je peux plus. Mais quand je peux, c'est moi. C'est moi qui dirige ma vie. Et je crois que ça, c'est une forme d'idolâtrie, où Dieu n'a pas la première place. Il a juste la place du pompier ou de la roue de secours. Mais il ne veut pas cette place-là, Seigneur. Vous rappelez, c'est un Dieu jaloux. Il veut la première place dans notre cœur. Et si c'est ça qui te parle ce matin, eh bien on va prier par rapport à ça. Peut-être tu as l'idolâtrie du confort ou de l'oisiveté avec un style de vie où la connaissance de Dieu, ça te passe par-dessus la tête. Ou prendre le temps d'ouvrir ta Bible et de prier, c'est vraiment la dernière chose que tu fais quand tu as le temps. Et souvent, tu n'as pas le temps. Mais je crois que Dieu veut que tu prennes une décision ce matin et que tu mettes ça de côté. On ne va pas casser le taureau parce qu'il est beau, mais vous pouvez casser ce taureau-là dans votre vie ce matin et dire, Seigneur, c'est ta conception que je viens chercher parce que moi, je suis là pour adorer le vrai Dieu, pas une image taillée par mes propres mains. Et la dernière chose que j'avais à cœur, c'est tout ce qui est addiction. Alcool, tabac, drogue, pornographie. C'est aussi une forme d'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que je laisse ces choses-là voler une partie de ma vie. Alors parfois je me dis, oh c'est pas grave, ça fait de mal à personne. Mais en fait si, ça fait du mal, entre guillemets, en premier à Dieu. Parce que nous péchons en premier face à Dieu. Et Dieu ne veut pas ça dans nos vies. Il est jaloux. Et il veut prendre l'entièreté de notre vie avec lui. Alors ce matin, on peut prendre du temps pour prier. On n'est pas obligé de nommer l'addiction, mais on peut dire, moi je veux qu'on prie par rapport à l'addiction dans ma vie. Et je veux casser ce taureau-là. Je veux le briser. Parce que c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez continuer à lire Exode 32, 33. Ils l'ont détruit. Ce taureau. Et nous avons besoin de détruire ces taureaux dans nos vies pour devenir des agneaux. Amen.